Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien, avec du vent quand même. Hein.
Ah oui.
On a failli s'envoler pour arriver ici.
Oui, oui, oui. Il me semble que vous êtes posé délicatement à l'entrée de la radio.
On est comme une feuille morte.
Ouais. Mais oui, avec délicatesse malgré tout. Vous avez eu le temps de réfléchir au film que vous allez nous proposer tout à l'heure, à voir à la télé ?
Ah oui, après mûre réflexion, il faut choisir. Parfois le choix est difficile et parfois non. Il faut choisir 4 films pour passer une bonne soirée de cinéma à la télé. Voilà, on vous conseille des bons films pour être tranquille au chaud. Encore.
Hein. Oui, oui, au chaud et à l'abri du vent.
Et à l'abri du vent, exactement. Sauf si on laisse les fenêtres ouvertes à la maison comme vous, mais bon.
Oui, oui, effectivement. Mais moi, c'est pour me coiffer.
Oui, bon, ça, oui, c'est oui. Vite fait. Hein.
Voilà.
Dans l'économie de peigne et de shampoing.
Exactement. Est-ce que vous allez éteindre la télé
on
ce
éteint,
soir?
On éteint, bien sûr, la télé, tous les écrans qui nous envahissent, les petits, les grands, les tout petits. Et conseils de lecture concernant le cinéma, bien sûr.
Ah oui. Bah, oui. Et vos conseils sont toujours précieux. Avec nous également, vous avez entendu notre spécialiste de la mécanique cinématographique, Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous Guillaume ?
Eh bien très bien, très bien.
Vous aussi, vous êtes arrivé comme une feuille morte ?
Ah oui, mais j'arrive tôt.
C'est vrai, c'est vrai, vous avez eu le temps de vous refaire une santé.
Exactement.
C'est un printemps précoce avec lui.
Ah, toujours. Guillaume Sidom, dites-nous tout.
Ah, ce soir, un thriller brésilien romanesque entre jeu de genre et fresque politique est doublement primé à Cannes.
Non.
Eh oui.
Oh. Ça nous dit quelque chose quand même. Hein. Pour le teaser, vous nous titillez certes, mais on est quand même sur la bonne voie. Ce soir, on retrouvera évidemment notre homme de loi des séries qui, ce soir, aura revêtu son habit de procureur. Ça va saigner. Alors, il était très embarrassé, Grégory Combe. Embarrassé parce que il me rend responsable du fait qu'il n'arrive pas à trouver de bonnes séries à regarder.
Ah oui.
Alors, il a profité du fait que nous sommes en plein moment politique, c'est le moins qu'on puisse dire, les deux tours des élections municipales. Alors, il a choisi de revenir sur une série qui a fait beaucoup parler d'elle en son temps, et aussi pour la façon dont elle s'est interrompue et terminée. C'est House of Cards, qui a cartonné 6 saisons, la 6e qui a été bâclée, et pour cause, vous vous souvenez de ce qui était arrivé à Kevin Spacey, et qui avait été dégagé. D'ailleurs, on ne sait même plus ce qu'il est devenu. Hein. Même si en 2019, il me semble qu'il a été innocenté des charges qui étaient retenues contre lui. Mais peu importe, de toute façon, on ne le voit plus ni sur le petit, ni sur le grand écran. Mais pour revenir à Grégory Combe, pardon, il fera un parallèle entre House of Cards et ce que nous côtoyons tous les jours en allumant nos télés pour regarder les infos, en écoutant la radio, ou bien en allant sur les réseaux sociaux voir ce qui se passe à propos des élections municipales. Et puis, qu'y a-t-il d'autre dans le panier de l'ouvreuse ? Eh bien, on retrouvera la fiche de la semaine que vous allez scruter, Laurent, avec l'ouvreuse. On parlera de reprises sur le grand écran. Il y en a quelques-unes à ne pas manquer cette semaine. Et puis, on finira par nos coups de cœur. Et puis, vous savez que ce week-end, il y a plein de choses qui se passent. On va y venir à propos de ciné latino, mais il y a aussi le printemps du cinéma.
Oui.
Pendant 3 jours, on peut voir tous les films qu'on veut pour 5 euros la séance.
Ça, c'est bien, ça. Ouais.
Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les salles du cinéma. Donc on est entre le 22 et le 24 mars, c'est-à-dire entre quoi et quoi ? Je me mélange. Dans les 22, ça doit faire vendredi à dimanche, non ? C'est ça ? Le jour, je me mélange.
Il me semble, oui.
Hein, c'est ça ?
Je n'oublie pas d'aller voter quand même avant d'aller au cinéma.
Oui, parce que le deuxième tour, c'est le 25, non ? C'est ça ? Non ?
C'est dimanche.
C'est dimanche, mais je me mélange. Donc, oui, c'est ça, c'est le 25, ouais. Mais on est là quand même. C'est terrible, hein, c'est terrible. Qu'est-ce que. On n'a rien dans la tête. Bon, mais peu importe. Toujours est-il que vous irez.
C'est le 22 mars, le deuxième tour, il me semble. On est le 18.
C'est ça, il a raison.
Ouais.
Oui, le 25, c'est mercredi prochain. Hein.
Oui, c'est mercredi prochain. Donc c'est bien ça. C'est le 22 mars. Donc c'est bien de dimanche, lundi et mardi, comme tous les ans. Hein, il faudrait qu'on vérifie quand même, je vérifie sur un calendrier ces dates. Hein.
Oui, on prend pas un vieux calendrier de 1973, hein,
oui,
on
n'aura pas les mêmes infos. C'est ça, exactement. Donc on parlera du printemps du cinéma. Puis je vous le disais aussi, ce week-end commence vendredi, le 20 mars, commence Ciné Latino qui souffle 38 bougies, c'est la 38e édition de Ciné Latino, les rencontres de Toulouse, le festival du film latino-américain toulousain. Et avec nous ce soir, elle est venue et elle nous a fait l'amitié de le faire, c'est Élodie Boucher qui s'occupe...
Odile.
Pourquoi j'ai dit Mélodie?
Élodie Boucher, son
mari. Voilà. C'est Odile, et en plus j'ai bien écrit Odile. Odile Boucher, vraiment, ça part mal aujourd'hui. Ce soir, Odile Boucher, qui est membre du comité de programmation, et en particulier la programmation des documentaires. Bonsoir Odile.
Bonsoir.
Comment allez-vous, Odile, à quelques encablures du début du festival? C'est toujours un peu crispant.
On est sur les starting blocks, comme on dit. oui, c'est pour après-demain. Hein. Voilà.
Dites-nous, on a regardé avec attention le programme qui est conséquent, malgré tout, dans ce qu'on pourrait qualifier d'un éditorial, hein, c'est l'édito. Mm-hmm. Marion Gautreau, la présidente de l'ARCALT, et donc la présidente de Ciné Latino, dit qu'il y a moins de films parce qu'il y a des restrictions financières, mais il y a toujours la même ambition qui vous tient.
Et oui. On a l'ambition de faire autant de rencontres et d'avoir un festival aussi sympa que d'habitude, alors qu'on a effectivement nettement moins de films, puisqu'il y a une quarantaine de films qui en moins que d'habitude, mais enfin il en reste quand même 100, plus de 100, 105. Donc il y a quand même de quoi voir du cinéma, ça il n'y a pas de problème. Et on va faire des rencontres. Il y a le focus porte sur le Mexique. Donc on a une invitée qui est une productrice mexicaine, Berta Navarro, qui a produit Paul Le Duc, qui a produit Guillermo del Toro, enfin des pointures de cinéma. Donc et puis on a les cinéastes seront là pour échanger avec le public. Il y a une rencontre avec les réalisateurs de cinéma documentaire. Il y a des tas de choses, d'occasions de rencontrer le public. Et il y aura bien sûr dans la cour de l'Ensav Cruz des concerts tous les soirs, des apéro-concerts. Enfin,
le village, puisque cette année encore, la cinémathèque étant fermée, vous ne pouvez pas utiliser ni la cour, ni les salles.
Voilà. La cour, il y aura la cantina, donc la cour est maintenant opérationnelle et on nous la prête, et merci beaucoup.
Ouais, mais la cantina, c'est pour une certaine catégorie de public. Hein,
c'est-à-dire que la cantina, c'est pas pour le public.
Voilà, exactement.
C'est pour les invités, les bénévoles. Oui.
Exactement. Donc,
vous n'avez pas le droit d'y manger, le mari.
Non.
Vous êtes très gourmand, n'y allez pas.
Non, mais je ne pourrais pas passer non plus. Vous parliez des films, du nombre de films. Il y a toujours les compétitions concernant le cinéma latino-américain, que ce soit les compétitions de fiction, de long métrage de fiction, de documentaire. Vous qui vous occupez des documentaires, avez-vous reçu et donc vu pour faire votre sélection?
On en a vu 270 et on en a donc 6 en compétition.
Oui, c'est
donc,
ça.
C'est serré. Oui. Et puis on a donc la rubrique découverte aussi. Où il y a...
une dizaine de documentaires.
Un peu plus. Il me semble qu'il y en a 15 ou 17, je ne sais plus. Enfin, de toutes les façons, ça fait peu de place pour les films qu'on reçoit. Et on a quelques regrets, évidemment. Parce qu'il a bien fallu choisir à un certain moment. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir moins de place, parce qu'on reçoit quand même des choses de qualité. Et cette année, je dirais comme impression générale que le Brésil, même si on essaye de répartir les pays aussi, mais le Brésil nous a envoyé beaucoup de très belles choses.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les propositions qu'on vous fait, que ce soit en documentaire ou en fiction, sont assez représentatives de l'ensemble de l'Amérique latine? Autrement dit, est-ce que il y a beaucoup de pays d'Amérique latine différents qui vous proposent des films?
Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, oui. Alors, selon les années, on a des pays qui en envoient plus que d'autres. Et cette année, le Brésil a envoyé beaucoup de choses, et beaucoup de choses très, très achevées, très belles, très, très bien conçues. Mais on a eu aussi des belles propositions de plein d'autres gens. D'ailleurs, notre sélection essaye de ratisser le plus large possible, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment, oui, ouvrir sur un continent, pas seulement sur un pays.
Oui, c'est qu'on ait eu une idée du cinéma tel qu'on le voit et tel qu'on le fait en Amérique latine.
Voilà, tel qu'on le fait. Il y a beaucoup de façons de le faire, finalement.
Oui. Oui. Ça serait réducteur de penser que le cinéma latino-américain est unique.
Ah non, non, c'est une erreur. Même le cinéma de chacun des pays est varié en lui-même. C'est-à-dire que, bon, il me semble que chaque pays a plusieurs cultures, c'est pas simple. Un pays comme le Brésil, c'est immense.
Oui.
Et c'est des populations qui ont des cultures complètement différentes. Au Guatemala, il y a plein de peuples aussi, alors que c'est tout petit. Donc, dire un cinéma, non, c'est pas approprié.
Ouais, c'est ce qu'on pourrait voir vu d'Europe. C'est vrai que pour nous, ça semble peut-être un continent américain où tout est un peu pareil. Mais voilà. Un peu, ils pensent pareil de nous, peut-être que nous, tous les Européens ne sont pas pareils.
Ah, mais ils ont la même impression de nous, oui, tout à fait. Ça, c'est normal.
Oui.
Ça, c'est normal. Mais en fait, oui, l'Amérique est une espèce de myriade de peuples différents. Mmh. Alors, il y a des langues dominantes qui sont les conséquences de la colonisation.
Oui.
Mais les cultures locales sont multiples, quoi.
Et quelle est la tendance de ces courts-métrages? C'est plutôt les films joyeux, tristes, sociaux? Quelle est l'ambiance générale?
L'ambiance générale. L'ambiance, on a essayé de la faire varier, justement, oui. Parce que.
Qu'elle soit représentative.
Oui, parce que ce serait facile de faire des programmes qui aient soit la sinistrose, soit l'inverse, des trucs super légers et tout ça. On essaye de montrer quand même plusieurs points de vue, hein, parce que.
Oui, c'est un panachage, en fait.
Oui. Mais en gardant un niveau de qualité, hein. c'est pas un panachage, un petit coup de ça. C'est pas non plus un saupoudrage. Hein. C'est autre chose. On cherche vraiment de la qualité et des points de vue qui soient différents. Aussi des films de femmes, des films d'hommes, répartir aussi de ce côté-là parce que les points de vue sont parfois différents. C'est intéressant aussi. Et bon. Après, les thématiques, elles sont assez variées, mais on a des films très personnels, des choses très riches du point de vue de l'expression, c'est-à-dire qu'on a des cinéastes qui font de l'image à partir d'archives, mais retravaillent les archives, parfois en dessinant dessus, parfois, enfin, il y a tout un... toute une richesse du travail cinématographique qui est très variée, très surprenant parfois.
Eh bien, on fait une pause, mais on vous retrouve, Odile Boucher, pour parler du ciné latino, mais tout de suite, on s'en va au cinéma, et justement, le film est en version originale, alors regardez bien les sous-titres qui sont au bas de votre poste, et on va causer portugais.
É pra completar? Pode ficar tranquilo, tá tudo em ordem aí. É pra completar?
Rapaz... é pra completar, né? O que é aquilo ali?
Isso foi domingo. Um infeliz aí veio roubar uma lata de óleo com uma peixeira na mão. Aí veio um menino que trabalha aqui à noite. Pegou lá 12, deu 2 TB. Uma na caixa dos peitos e outra na cara e não levantou mais. Esse é um meliante. Mereceu. Pode ficar tranquilo, sou é cliente, é bem atendido aqui. Não tem nada a ver com isso. Viu?
Sim.
É isso mesmo. Vamos. Vou ter que afastar só um pouquinho pra gente.
Imaginez que vous êtes en voiture, que vous voulez faire le plein, que vous arrêtez dans une station au milieu de nulle part, et qu'en plein milieu de la piste, parler de la piste, c'est la piste où effectivement c'est plus la route, et c'est la piste comme on l'appelle quand on va dans une station essence, mais là ça ressemble étrangement à ce qu'il y a autour, il y a des cailloux, et au milieu, juste à côté de la pompe, il y a un cadavre avec un carton dessus. Et vous êtes avec votre voiture, et puis vous n'avez pas envie de vous arrêter, mais le pompiste sort, il dit vous voulez de l'essence. Oui, même si justement la jauge est à zéro. Mais qui c'est lui là? Ah, lui, c'est rien, ça s'est passé dimanche. Il a voulu braquer la station avec une machette, et le veilleur de nuit, il a tiré dessus, il a mis une balle dans la tête et une balle dans l'épaule, c'est réglé. Mais ne vous inquiétez pas, hein, nous, on sert l'essence. Voilà. Oui. Alors, expliquez-nous tout. expliquez-nous tout, Guillaume, maintenant qu'on a traduit tout ce qui était dit dans cet extrait.
Le décor est planté pour L'Agent Secret, quatrième film du réalisateur brésilien Kleber Mendoza Filho, avec un titre comme une fausse piste, puisqu'il n'y est pas question d'espion. Son film peut-être le plus abouti, sorti sur vos écrans en décembre dernier, musique signée Mateus Alves et Thomas Alves Souza, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Prix de la mise en scène et prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes, tourné intégralement à Recife, mais écrit en France, un film formidable, inclassable, situé à la croisée du cinéma d'auteur et du film de genre, qui commence comme un thriller et qui se gonfle au fur et à mesure de personnages et d'intrigues secondaires, un film qui absorbe avec gourmandise des tas d'idées de références et qui fait de cette joie un humanisme solaire avec ses teintes pastel et ses plans qui transpirent le cinéma. Nous sommes en 1977, en pleine dictature militaire au Brésil. Tout commence donc en rase campagne, alors que le carnaval de Rio déverse sur les routes des gens déguisés qui poursuivent ou commencent la fête dans leur voiture. Un homme qui conduit une coccinelle jaune s'arrête donc dans une station de service déserte et écrasée de chaleur. Sur le sol gît un cadavre semi-couvert par un morceau de carton. Le regard que porte le héros sur la situation constitue une direction pour le film, à la fois choqué, inquiet et résigné. Il se gare, on lui fait le plein. « Ah, ça, c'est un voleur que le gardien a tué l'autre jour », lui dit le propriétaire. La scène a le tragicomique et l'humour absurde d'un film des frères Cohen. Mais c'est sous le soleil d'un Brésil vintage, et elle lance le personnage principal, un certain Marcelo, je vais y revenir. Mais s'appelle-t-il vraiment ainsi, sur une route incertaine, dangereuse, mais aussi tout à fait banale? Revenu dans sa ville de Recife, donc après des mois d'absence, Marcelo trouve un logement dans une résidence habitée uniquement, semble-t-il, par des personnages et des personnes menacées par le régime, avec qui il va nouer des relations amicales, amoureuses et festives. Régulièrement, il retrouve son petit garçon qui vit chez son père, projectionniste dans un cinéma qui passe alors les dents de la mer. On lui donne un travail aux archives où le piste deux tueurs à gages quasi cartoonesques. La ville est alors par ailleurs sujette à une psychose étrange. On raconte qu'une jambe arrachée par un requin non loin de la plage attaque la nuit prostituées et marginaux dans des recoins obscurs. C'est un film que grignotent des tas d'autres films, série B, horreur, fresque, chronique familiale. Il fait feu de tout bois, tourne et retourne le drame en comédie en permanence dans un mouvement qui est celui du carnaval et dans lequel le seul élément de stabilité est peut-être ce fameux personnage de Marcelo.
Personnage interprété par un acteur très remarqué, Wagner Moura.
Oui, qui réussit à jouer un type à la fois aimable et totalement insaisissable, ce qui est sacrément acrobatique. Voilà un homme dont on apprend vite qu'il est traqué, qu'il joue donc sa vie, mais qui décide d'aller retrouver son petit garçon, un homme qui n'est pas flic ni espion, mais qui a plusieurs noms, des techniques pour se cacher, des contacts avec la dissidence politique, un homme qui a peur pour sa vie, mais qui fait la fête, l'amour, et qui va donc au cinéma. L'Agent Secret est un film à la fois traversé par l'étrangeté et la familiarité, un film en partie tournée dans le Brésil de Bolsonaro et qui montre combien la vie sous une dictature est bizarre jusque dans les choses les plus normales. Une vie comme mangée par la fiction avant même que d'être représentée comme une fiction. En cela, L'Agent Secret répond à un autre film brésilien sorti en début d'année qui avait connu un grand succès, Je suis toujours là de Walter Salles, qui racontait aussi le Brésil sous la dictature militaire à l'échelle d'une famille de notables dont le père était kidnappé du jour au lendemain. Walter Salles Morales, lui, filme la violence arbitraire comme une bascule spectaculaire. Un jour, on rigole avec sa famille. Le lendemain, on est torturé dans une geôle et l'argent secret est vide. Cette bascule simple du normal vers la normale va déplacer l'outrance et travaille sur ce qui est peut-être la violence politique dans un régime apparemment moins réaliste, mais qui donne à sentir beaucoup plus sensiblement le vertige qu'elle produit. Un polar politique prodigieux et foisonnant sur la mémoire qui mêle les genres et les époques, formidablement mise en image, une déclaration d'amour au cinéma. À retrouver donc ce dimanche 22 mars, 15h50, au cinéma Le Cratère à Toulouse. Séance animée par l'association ABC Brésil, également visible le 26 à 14h05, le 28 à 20h05 et le 31 à 17h55, toujours au Cratère dans le cadre de la 38e édition de Ciné Latino du vendredi 20 au dimanche 29 mars prochain. Retrouvez toute la programmation sur cinelatino.fr et en Blu-ray et DVD chez Ad Vitam. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Guillaume Sidom vous l'a dit, ce sont les frères Alves, Mateusz et Thomas, qui ont signé la bande originale du film de Kleber Mendoza Filho, L'Agent Secret. Ce sont Puerto Perla et Victor Capulli qui ont signé la musique de la bande-annonce de Ciné Latino 2026. C'est celle que vous entendez. En ce moment, il vaut mieux aussi voir les images qui vont avec. Là, vous n'avez que le son, mais vous verrez tout ça chaque fois que vous irez voir un film de la sélection. Avec nous, Odile Boucher, qui est là pour nous parler de tout ce qu'on va pouvoir découvrir pendant cette belle dizaine de jours, donc du 20 au 29 mars. Des compétitions fiction,
oui.
Documentaires, ça c'est en long métrage, en court métrage pareil. Il y a fiction, documentaire, mais aussi animation. Il y a aussi de l'animation,
aussi, oui.
Avec 7 cours. C'est pas mal ça aussi, parce qu'il y a une programmation pour les enfants. Là, on parle de la programmation des courts-métrages d'animation, pas forcément destinés à des enfants.
Oui, absolument. On a décidé, c'est l'an passé, il y a 2 ans, je crois que c'est la deuxième ou troisième année qu'on fait ça, qu'on fait un programme animation. Habituellement, on les intégrait, c'est-à-dire que les animations sont soit documentaires, soit fiction, et donc on les mettait dans les programmations autres. Mais là, on a décidé de faire un programme à part pour l'animation, parce que dans vraiment beaucoup d'endroits d'Amérique latine, il y a un gros développement de l'animation ces temps-ci, et il nous semblait intéressant de pouvoir avoir un programme que là-dessus, d'autant plus à Toulouse, qui a quand même une certaine activité dans le domaine de l'animation, une activité certaine même.
Oui.
Et donc,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, oui, oui. Donc, c'était adéquat pour Toulouse d'avoir un programme d'animation.
Alors, la compétition, évidemment, il y a des prix. Il y a les prix, les coups de cœur, puis il y a les prix des cheminots, le Rydoc, il y a les prix des électriciens et des gaziers. Il y a beaucoup de monde. Il y a le prix des médiathécaires, non ?
C'est oui,
ça aussi, pour le documentaire.
Alors, c'est pour le documentaire, mais il est le prix du documentaire. Et maintenant, on a mis ensemble, il y a les médiathécaires, il y a aussi l'IPEAT, il y a la librairie Terra Nova qui participe au prix. Hein. C'est un prix collectif. On
dirait. C'est un prix collectif. Alors, il y a évidemment un prix des lycéens pour la fiction. Et il y a, que ce soit pour la fiction comme pour le documentaire, le prix du public.
Le prix du public, oui, ça c'est la Dépêche du Midi. Bon, alors c'est un bulletin de vote et on demande vraiment aux gens de bien voter à chaque projection de des compétitions, de toutes les compétitions, parce que pour les cinéastes, enfin, pour nous en tant que sélectionneurs, c'est pas important le prix, parce que nous, le fait qu'on les sélectionne, c'est déjà, on leur a déjà donné notre prix, nous.
Oui.
Mais par contre, pour les cinéastes, c'est important d'emporter quelque chose de plus que notre sélection chez eux, quand ils rentrent chez eux. Donc c'est important que le public vote.
Justement, quels sont les critères pour sélectionner un documentaire ou une fiction ? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ? Comment ça s'organise en coulisses ?
Comment ça s'organise en coulisses ? Ça dépend. On dépend forcément de ce qu'on nous envoie. Et on a un certain nombre de critères de sélection, évidemment, de la qualité du film. Ça, c'est la qualité cinématographique y soit. Après, la thématique, la façon dont c'est traité, enfin, tout ça, on a un certain nombre de choses sur lesquelles on se met d'accord en tant que comité. Nous, on est 9 personnes, donc ça fait beaucoup de points de vue différents. Et pour arriver à faire converger tout le monde, c'est pas forcément facile, mais bon, on y arrive quand même.
Il y a d'autres sections dont nous allons parler après que nous ayons jeté un coup d'œil, en fait que vous ayez jeté un coup d'œil, Laurent, sur l'affiche de la semaine avec l'ouvreuse, bien sûr, parce qu'elle est toujours là pour vous aider.
Oui, nous avons fusionné nos listes, du coup.
Voilà, vous les avez déposées à temps.
Ah oui, tout à fait, bien
sûr. Hier, avant 18h.
Respectueux des lois, bien sûr.
Très bien, nous vous écoutons.
À l'affiche cette semaine, Les rayons et les ombres. Voilà un joli titre. Hein. C'est le nouveau film de Xavier Zanoli.
C'est Victor Hugo.
Pardon.
Oui, excusez-moi.
La suite de la chronique.
Excusez-moi. Vous voulez qu'on recommence ?
On reprend. Au montage.
Hein. Oui, on coupera.
À l'affiche cette semaine, Les rayons et les ombres de Xavier Zanoli avec Jean Dujardin, Auguste Dill et Nastia Golubeva. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Lucher, un père et sa fille pris dans l'engrenage de la collaboration. Avant d'emprunter son titre à un recueil de poèmes de Victor Hugo, sachez que ce film s'intitulait tout simplement Corinne Lucher, dont le destin est retracé dans ce film. L'actrice émergente des années 40 est jouée par une jeune actrice émergente, elle aussi, Nastia Golubeva, retenez bien son nom. Mais ici, il y a aussi les ombres du titre, qui ne sont pas celles de l'armée melvillienne, hein, l'armée des ombres sur la résistance, mais celles de son envers maudit, la collaboration. Louis Malle avait abordé ce sujet tabou dans La Combe Lucien, en 1974. Alors, ces ombres maléfiques entraîneront la disgrâce de la jeune star dans le sillage de celle de son père Jean, patron de presse et ami intime, surtout de l'ambassadeur de l'Allemagne nazie à Paris, le fameux Otto Abetz. Alors, vous le savez, la compromission est un lent processus pour arriver à la soumission. Il y a d'abord les premiers pas, presque hésitants, dans ceux du maréchal Pétain, que Jean suivra docilement pour éviter à la France un sort bien pire, entre guillemets. Puis les compromissions avec son ami allemand, donc Otto Abetz. Puis les magouilles, les combines, les trafics en tout genre, le marché noir pour maintenir dans ce quotidien rationné un standing à la hauteur de son orgueil, de son goût du luxe et puis de son appétit aussi pour les plaisirs illicites. Le point de bascule donc sera atteint quand Otto Abetz fait appel à lui pour créer un organe de presse qui saura défendre la politique de l'Allemagne nazie et surtout endormir les masses. fidèle toutou, Jean Luchaire modifie le nom de son journal Notre Temps en Les Nouveaux Temps. Il obtiendra le soutien financier et logistique des Allemands et celui de Vichy, devenant ainsi d'ailleurs le patron de presse le plus puissant du Paris occupé. Alors le film va s'attacher aussi à sa relation assez tendre, parfois assez ambiguë, avec Corinne, donc sa fille chérie, qui deviendra, comme je l'ai dit, une vedette éphémère du cinéma français, présentée à l'époque comme la nouvelle Greta Garbo, pleine d'admiration pour son père, aveugle à la tempête qui déferle sur l'Europe. Elle fera partie de ce Paris artistique, vous savez, celui des Maurice Chevalier, des Sacha Guitry ou des Coco Chanel, qui couraient les fêtes en compagnie d'officiers allemands, pour finir, elle aussi, rattrapée par l'histoire avec un grand H. Et dans les poumons de Corinne et de Jean se répand le même germe infectieux, rongeant peu à peu le souffle de leur vie, la tuberculose, que l'on pourrait d'ailleurs envisager comme une métaphore de l'idéologie nazie qui se diffuse. Giannoli applique donc avec talent les raisonnements de son fameux film Les Illusions Perdues, qui était une autre réflexion éthique sur le croisement entre l'ambition, les réalités d'une époque et le pas très joli monde des arts et du journalisme. Petite revue de presse sur ce film, une fresque sublime selon 20 minutes. Bande à part a bien aimé aussi la force de ce film foisonnant, c'est l'intelligence limpide avec laquelle il narre cette page sombre de notre histoire. Et c'est d'autant plus troublant que les échos avec la nôtre sont constants. Première a beaucoup aimé aussi. Un grand moment de cinéma tragique et sombre, dérangeant, raffiné et populaire. Bémol pour Libération, sous la plume de Luc Chessel, fasciné par ses personnages jusqu'à la complaisance, le biopic fleuve de Xavier Giannoli sur le destin de deux collabos sous l'occupation fait l'effet d'une entreprise de relativisation qui cherche à mêler l'empathie et la réprobation. À l'affiche aussi cette semaine, pour rigoler un petit peu dans ce monde de brut, on pourra voir Police Flash 80 de Jean-Baptiste Sorel avec un très beau casting, François Damien, Audrey Lamy et Thomas Ngijol. Nous sommes en 1984, et oui, rappelez-vous, ça a existé. Yvon Castendieuch, peut-être un rapport avec le footballeur. Ouais. Flic à l'ancienne et fan de Michel Sardou et propulsé malgré lui à la tête d'une unité d'élite, la Police Flash 80. Il doit désormais faire équipe avec Guylaine, une maman surmenée, et qui est le cerveau du groupe. Marfoud, le geek du Minitel, comme vous, Guillaume. Et Roberto, l'infiltré à la coupe mulet, comme vous, à l'époque, Louis-Marie.
Bien sûr.
Les années 80, on a des photos.
Ouais.
Ensemble, ils vont tenter...
Il y a des traces.
Il fallait tout effacer. Ensemble, ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue, en devenant une brigade si improbable que même les années 80 n'étaient pas prêtes. Voilà, donc, un beau pastiche qui l'orne un peu vers OSS 117, mais fait avec goût, quand même. Une belle reconstitution, vraiment film à découvrir, on vous conseille d'avance. À l'affiche aussi cette semaine, on pourra voir La Danse des Renards avec Samuel Kircher, de film de Valérie Carnot avec qu'on peut voir à l'American Cosmographe ou à l'Utopia Bordeaux Rouge. On peut voir La Guerre des Prix. Ça se passe dans un supermarché, La Guerre des Prix, d'Anthony Dechoux avec Anna Girardot. On peut voir ça au Grand Palais à Cahors, au CGR Montauban, le Paris. Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling, un film science-fiction qui l'orne vers le comique, vers la drôlerie, comme ça. De Phil Lord et Christopher Miller, on peut voir ça au VO à Cartoucherie. On peut voir aussi Remember of Him de Vanessa Kevelli. Le film d'horreur de la semaine, ce sera Le Sifflet de Corinne Hardy, mais vous m'aviez dit de ne pas dire Hardy. On peut voir aussi La Princesse, L'Ogre et la Fourmi, un film d'animation dès 5 ans d'Edouard Nazarov. Un film qui est raconté et chanté par Philippe Catherine. Tiens donc, on peut voir ça à l'ABC Toulouse. Et pour finir, un autre film d'animation qui s'appelle tout simplement David de Brent Daves et Phil Cunningham.
Parmi les titres des années 80, celui-ci apparaît dans le film Police Flash 80 de Jean-Baptiste Sorel. On l'a retenu parce qu'on aimait bien Axel Bauer dans son Cargo de nuit et qui montrait ses pectoraux. Attention, le clip n'était pas livré à tous les regards. Va-t-il arriver à bon port ? Ah, ça a écouté la chanson jusqu'au bout. En attendant, nous, on va écouter Grégory Com qui va revenir sur House of Cards.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, comment voulez-vous que je vous trouve des séries intéressantes avec des retournements de situation toutes les deux secondes quand la réalité est pire que tout ce que les scénaristes de Netflix pourraient faire ? Au niveau des élections municipales, les accords techniques entre les gens qui se détestaient il y a deux jours, qui disaient que c'était le mal et finalement ils s'allient. Même dans les pires telenovelas, on n'aurait pas fait ça. Au football, la CAN qui annule sa finale et qui finalement donne la coupe au Maroc. Je peux plus rien faire. Alors je me suis dit, je vais revenir sur une vieille série politique, parce qu'on est dans une période politique, on est dans une période de trahison, de compromission, où on jette toute son éthique aux toilettes pour pouvoir avoir des postes. Je me suis dit, on va parler de House of Cards, parce que c'est une des séries, c'est pas la première série politique, mais c'est une des plus emblématiques, et qui au final s'est compromise elle-même et est arrivée à un final horrible que tout le monde a oublié. Mais la question que je me suis posée en re-regardant cette série, est-ce que au final on n'était pas déjà dans quelque chose qui ne fonctionnait pas depuis de nombreuses années? Alors House of Cards, c'est quoi? C'est avec Kevin Spacey, du moins les premières saisons, et nous avons Frank Underwood, un des grands conseillers du président, qui se fait trahir politiquement, qui devait avoir un poste et qui ne l'a pas, et qui décide de monter un plan très complexe pour se venger politiquement du président et devenir lui-même le président des États-Unis. Pourquoi ça a marché? Alors déjà, Kevin Spacey, acteur à l'époque, adoré, était un moyen de vendre le show de façon très très claire. Ensuite, la méthode Netflix, même si on a tendance à oublier, à l'époque c'était Canal qui l'avait acheté, et quand Netflix est arrivé en France, il n'avait pas House of Cards, c'est que dans les autres pays, c'est arrivé bien plus tard. Donc déjà, le fait d'avoir des premières saisons qu'on pouvait binge-watcher, vous savez, le fait de regarder toute une saison d'un coup. La narration avec un Kevin Spacey qui est odieux, qui n'a pas d'éthique, et qui finalement se retournait vers le téléspectateur pour le prendre à partie, lui expliquer ce qu'il allait faire, et au final nous rendait un peu complices de ce qu'il faisait, car on se délectait de toutes les méchancetés qu'il allait faire. Ensuite, on rentrait véritablement dans les arcanes du pouvoir américain, les façons de voter, les candidats, que ça soit avec les primaires pour les présidentielles ou par la suite. Donc, c'était quand même extrêmement réaliste de ce point de vue-là et nous amenait énormément de réponses. J'ai toujours une tendance à avoir préféré la série Baron Noir, qui évidemment nous touche plus, mais il faut avouer que House of Cards a tout permis, et d'ailleurs souvent, quand une nouvelle série politique sort, on dit « Ah, c'est comme House of Cards » ou « Ça fait du House of Cards ». Alors, on dit souvent que le départ de Kevin Spacey a entraîné la chute totale du show dans son histoire et le fait d'avoir une fin un peu mémorable et que cette série est tombée dans l'oubli. En vrai, on a la mémoire un peu courte, comme souvent en politique. En vrai, la série, elle a commencé à décliner à partir de la saison 3. Si on prend les notations de Rotten Tomatoes, alors ça fait pas tout, mais c'est une réalité. La première saison, comme diraient les jeunes, c'est un banger absolu, tout le monde adore, 87% de score critique, génial. La saison 2, 83%, c'est toujours très bon. La saison 3, on descend à 73%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le début, en fait, c'est le lancement de la série, l'ascension du personnage, l'objectif d'arriver vraiment à la présidence. Et quand le climax est passé, ben en fait, on se dit, mais pourquoi on continue à avoir un show? En fait, le show aurait dû se terminer là, ou alors avoir une sorte de téléfilm qui nous montrait qu'est-ce qu'il était en tant que président. Et en fait, on s'ennuie, c'est un peu mauvais. La saison 4 part bien avec 86%, puis ça chute à la saison 5, 72%, et ça s'effondre à la saison 6, 65%. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans des intrigues et sous-intrigues qui sont mauvaises. Le fait que la femme de Frank Underwood arrive à monter à l'ascension de la présidence fait trop rapide, trop forcé. C'est pas l'idée qu'elle veuille y aller qui est mauvaise, c'est l'exécution. Et effectivement, Kevin Spacey, qui avait des problèmes judiciaires à l'époque, a été cancel, donc enlevé de la série, et on règle son sort hors écran. Et clairement, on voit que c'était pas prévu. La fin est précipitée et incohérente. Il y avait des moyens de faire une fin cohérente sans Frank Underwood, mais là, clairement, on est allé dans une écriture très moyenne qui est le résultat des autres. Et donc, on a une fin complètement oubliable, incohérente sur plusieurs points, et une série qui, en fait, était enterrée depuis sa troisième saison. Et clairement, la hype était repartie. Donc, je reviens sur House of Cards parce que, oui, les deux premières saisons sont exceptionnelles. Et il faut les regarder. C'est une masterclass. Ça fait partie de la culture des séries télé. Sur le reste, c'est ennuyeux, c'est mal écrit, même si on a des acteurs exceptionnels. Et au final, c'est la construction de cette série, c'est vraiment une construction politique. Elle s'est reniée elle-même et c'est ce qui a entraîné sa chute. Comme quoi, on peut tenter de faire quelques accords techniques, mais quand on se renie trop, on ne fait qu'une chose, c'est chuter. Je vous remercie.
Eh bien, il va falloir que les candidats écoutent notre Grégory Combe, quelle que soit la municipalité où il se présente, et réfléchissent à ce qu'il vient de dire, et à propos d'House of Cards en particulier. C'est Jeff Beal qui a composé la bande originale de House of Cards, en particulier de la saison 6. Ivan Vandoor qui a composé la bande originale de ce film-là, qu'il est difficile de reconnaître avec cette musique, si je vous dis qu'il est de 1975, ce film dramatique hispano-franco-italien. C'est pour ça qu'on entend parler espagnol un peu là, derrière la musique. Et ce film, il est signé Michelangelo Antonioni et il s'intitule Profession reporter. Et son acteur principal, c'est Jack Nicholson, qui joue le rôle d'un reporter, qui va prendre l'identité d'un autre personnage, personne qui occupe la chambre à côté dans l'hôtel où il habite. Et cette autre personne est un trafiquant d'armes. Donc, il va faire quelques écarts par rapport à sa profession de reporter. Passionnant, il y a Jack Nicholson et sa partenaire féminine, c'est Maria Schneider. À découvrir donc et à ne manquer sous aucun prétexte, à une seule condition, que vous habitiez Rodez. Eh oui, c'est les plans cultes du CGR de Rodez. Vous pouvez voir le film mardi prochain, 24 mars à 20h. Sinon, à la Beige, dimanche 22 mars à 19h30, le retour de Mad Max dans Fury Road, c'était en 2015 et ça a cartonné. C'est Tom Hardy qui reprenait le personnage de Mad Max et Charlize Theron était à ses côtés, cartonné tant et si bien qu'il a décroché quelques Oscars le film et qu'il a fait sensation aussi sur les écrans et a amené les spectateurs dans les salles. American Sniper, C'est aussi au Pâté la Belge, mais c'est vendredi en VO, lundi 23 mars à 21h, Clint Eastwood. Le film de Clint Eastwood qui a eu le plus de succès, eh oui, avec Bradley Cooper qui joue le rôle de ce sniper américain. Une histoire vraie, authentique de cet homme qui était devenu tireur d'élite. Et à l'American Cosmograph, vous pourrez voir La famille Homolka. Alors là, c'est une comédie de 1970 de Jaroslav Papunek. Je n'invente pas le nom, c'est son nom. Un réalisateur tchécoslovaque. Et c'est une comédie assez débridée sur la vie de famille le dimanche. Et c'est assez savoureux à découvrir. Donc le film ressort, il a été restauré et ça vaut le coup de faire le détour. Comme il vaut le coup de faire le détour pour aller revoir James et la pêche géante d'Henri Selick, un film de 97. Guillaume Sidom ira avec son voisin ou pas, son petit voisin ou pas.
Oui, et puis surtout, il faut savoir que le début est en animation, mais après le reste, c'est des prises de vue réelles.
À découvrir, donc, c'est particulier, d'après un bouquin de Roald Dahl. Hein, les reprises sur le grand écran, c'est fini, parce que la Cinémathèque, il n'y a plus de programmation, parce qu'elle va bientôt réouvrir, et ça va être extraordinaire, oui. Le week-end de réouverture de la Cinémathèque. C'est pour le week-end du 10 avril, par là. Maintenant, c'est à vous, Laurent, le film sur le petit écran.
Le cinéma à la télévision garantie sans fusion ni ballotage. Ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec The Descendant d'Alex Payne avec George Clooney. Il est avocat à Honolulu, Matt King, et il est héritier, comme ses nombreux cousins, de terres situées dans une île voisine. Il gère ses affaires, mais il apprend que sa femme, suite à un accident, sombre dans un coma irréversible. George Clooney réalise vraiment une super performance, explorant avec brio le registre de l'intime dans cette chronique touchante. Et puis rien que pour voir George Clooney prendre un café en tongs.
Et surtout courir en tongs, prendre un virage de la route en tongs, il est assez extraordinaire.
C'est très décalé.
Ouais,
le film est vraiment bon. Jeudi sur France 4 à 21h, ce sera L'Avenir de Mia Hansenlove avec Isabelle Huppert, l'histoire de Nathalie, prof de philo, qui est à Paris et qui doit régler plusieurs problèmes familiaux. Donc, afin de se ressourcer, elle décide comme ça de partir quelques jours dans le Vercors pour faire du saut à l'élastique, comme disait Alain Bachung, et surtout rejoindre Fabien, l'un de ses anciens élèves. Trouvant le juste dosage entre comédie et drame, la jeune cinéaste offre un rôle en or à Isabelle Huppert. Vendredi sur France 5 à 21h, on pourra regarder Victoria de Justine Trier avec Virginie Efira. Là aussi, nous sommes à Paris. Victoria, une avocate de tempérament, traverse une mauvaise passe. Après avoir hésité, elle accepte de défendre Vincent, qui est accusé d'avoir poignardé sa compagne lors d'un mariage. Nous sommes à la frontière entre le drame et la comédie, et le deuxième long métrage de Justine Trier, après la bataille de Solferino, brille d'une belle énergie. Et puis dimanche, si vous en avez assez, des élections et des plateaux télé où tout le monde a gagné, même quand il a perdu. À ce moment-là, vous pouvez voir un western, sur Arte à 21h, La caravane de feu de Burt Kennedy, un film de 67 avec John Wayne et Kirk Douglas. L'histoire de Tow Jackson qui est de retour après avoir passé 3 ans en prison suite à un faux témoignage de Frank Pierce, et il est en colère, bien sûr. Et en apprenant sa libération, Frank Pierce engage Lomax, incarné par Kirk Douglas, un tueur à gages pour abattre l'ancien éleveur. Soutenu par deux géants d'Hollywood, un western dans la grande tradition du genre qui mêle action, suspense et humour. Et puis on éteindra tous nos écrans et on peut s'offrir un livre, ce sera le guide cinéma Best of 2020-2025. C'est vraiment un petit livre très sympa pour se remémorer déjà les 5 dernières années de cinéma, le Covid qui est passé par là, puis la montée des plateformes. Livre sympa que vous retrouvez pour 7 euros aux éditions Fnac. Tenez Guillaume, je vous l'offre.
Merci beaucoup Laurent.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Ça va ?
Ça me laisse sans voix.
Effectivement.
On m'a écrit le bec.
Toujours Puerto Perla et Victor Capulli pour la musique. Et là, c'est la bande-annonce du focus sur le Mexique, propose Ciné Latino. 38e édition avec nous, Odile Boucher. On reprend notre conversation, il reste des choses à dire encore sur Ciné Latino. On a parlé de la compétition, mais il y a aussi des découvertes, des reprises, il y a des classiques. On pourra voir le premier film de Iñárritu, j'arrive. González Iñárritu, Amourchienne. Et bien aussi la Ciudad de los Perros, mais ça c'est pas de lui.
Ciudad de los Perros, oui, non, c'est un film.
Mais Amourchienne, c'est le film qui a fait, qui l'a rendu célèbre, González Iñárritu. Ça c'est sûr. Parmi les découvertes, les découvertes sont des films évidemment qui auraient pu être j'imagine en compétition, mais il y a une...
Non, la compétition n'a que des films qui sont pour la première fois en France.
Ah, parce que...
c'est pas une question de qualité du film, mais si les films ont déjà été vus...
Oui, mais je pensais à découverte, j'imagine qu'il peut y avoir des films qu'on ne connaissait pas, en tout cas.
Ah ben, on espère bien.
Voilà.
On espère bien faire découvrir des choses, oui, tout à fait. Mais la question, par exemple, bon, il y a plusieurs films qui sont vraiment des films magnifiques et qui auraient mérité d'être en compétition.
Oui.
Par rapport à ce qu'on montre, ils ne sont pas du tout inférieurs, entre guillemets. Mais simplement, ils sont déjà passés en France et donc ils ne sont pas en compétition.
Ça m'avait échappé. Il y a Otra Mirada. Alors, Otra Mirada concerne le Colectivo Colmena. Colmena. Mmh. Alors, c'est une association qui œuvre pour le cinéma. Elle œuvre où
C'est des Mexicains aussi.
C'est des Mexicains aussi.
Colectivo Colmena, oui, ce sont des Mexicains et ils signent un collectivo. Ils ne signent pas individuellement. C'est vraiment des travaux qu'ils font en groupe et qu'ils montrent en groupe. Et donc, y a des longs-métrages qui seront montrés en salle et aux abattoirs, on va montrer un programme de courts-métrages qui sont expérimentaux, qui sont intéressants. Voilà.
Du même collectif.
Du même collectif, oui.
Un Colmena, si je ne m'abuse, c'est pas La Ruche ?
C'est La Ruche.
Donc, ça doit bouillonner quand ils sont ensemble. Ça doit vibrer.
Oui, oui.
Il y a aussi une programmation concernant le jeune public.
Ah, toujours, oui, oui.
Toujours.
On est très attentif au jeune public, puisque le jeune public, c'est lui qui sera le public adulte de demain. Donc, c'est important de leur montrer des choses de qualité, des choses variées, des choses intéressantes qui leur donnent envie de cinéma. Et donc, on a des programmes. Alors, le jeune public, il y a plusieurs. Là, le programme pour enfants, pour petits, c'est une chose, mais on a aussi des choses qui se font au niveau des lycées, des collèges, oui, à la fac.
Voilà. Et pas forcément pendant la durée du festival, ça peut se passer avant.
Un peu avant aussi, oui, parce qu'il y a déjà eu des projections pendant les vacances de février, en particulier à Veo à la Cartoucherie, il y a eu plusieurs représentations. Enfin, oui, il y a des choses, et pour les collèges et les lycées, ils ont des représentations sur une période de temps un peu plus longue, parce qu'ils ont des impératifs qui ne les rendent pas forcément libres juste au moment du festival.
Oui, bien sûr.
C'est compliqué.
Mais ils auront l'occasion, malgré tout, de rencontrer certains des invités que vous avez au festival.
Tout à fait. Et en région aussi, on a des projections. Il y a 50 cinémas de région qui participent au festival. Et donc, il y a 4 cinéastes qui vont sillonner la région de petite ville en petite ville où ils vont montrer leurs travaux. Et il y a 50 villes en tout. Hein. Donc, c'est quelque chose qui...
Oui.
Sur toute la région.
Hein. La région Occitanie, ça va loin.
Oui, la région Occitanie est très grande.
On va dans les PO, on va Hérault, dans l'Hérault, pardon.
Oui.
Beaucoup dans ce qui était la région Midi-Pyrénées aussi.
Oui. Dans Midi-Pyrénées, c'est notre région d'origine, si je peux dire. Mais là, maintenant qu'on est devenu Occitanie, en fait, on est allé aussi un peu plus loin, justement, de ce côté-là. Mais ça fait, on a toujours fait ça, mais là maintenant il y a 50 cinémas qui sont fidèles, je dirais, d'une année sur l'autre.
Ça fait quand même un beau nombre de, d'écrans comme ça.
Ah, 50 c'est cinémas. Bien, ouais.
Dans la région, c'est bien de promouvoir le cinéma latino-américain, bien sûr, et le cinéma pour que les gens reviennent et se viennent
reviennent
se réinstaller.
Aux grands écrans, oui, parce que les grands écrans, je pense que c'est vraiment une expérience complètement différente de regarder un film à la télé, quoi. Ça,
bien sûr.
Même pour le film,
il y a un partage avec les spectateurs.
Et puis il y a une qualité aussi de le fait d'avoir un grand écran, ça change la qualité d'image quand même. Et donc.
Et retrouver toute la programmation sur cinelatino.fr.
Oui, absolument. Et puis il y a des programmes un peu partout dans la ville. On peut les trouver, les programmes papier. Et il y a aussi un petit QR code qu'on peut mettre dans son téléphone et avoir tout le programme qu'on veut.
Et puis pour les tarifs, il y a un pass Ciné Latino, il y a des carnets à partager, des billets à l'unité.
Et alors ça, à l'accueil dans la cour de l'Ensav Cruz, on peut trouver ces passes, on peut aller les acheter. Voilà. Et nous serons enchantés. Venez au cinéma, on a plein de belles choses à vous montrer. Et donc, et puis en plus, il y a les apéro-concerts, il y a tout ça qui sont rigolos, sympas. En
fait. Et qui participent de l'ambiance du festival. Merci, merci beaucoup Odile Boucher d'être venue passer ce moment avec nous. Et on écoute un brin de musique d'un monsieur qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà Ludwig Göransson, qui a eu l'Oscar de la meilleure musique pour Sinners. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour Les Rayons et les Ombres, Police Flash 80, Projet Dernière Chance et Ciné Latino, qui commence vendredi.
Les Rayons et les Ombres, Police Flash 80, Projet Dernière Chance, et puis les 36e rencontres du cinéma latino
38.
À Toulouse.
38e.
Ouais. Eh bien, moi, oui. C'est comme vous. Les Rayons et les Ombres, Police Flash 80, Projet Dernière Chance, Ciné Latino, évidemment, et puis profitez du printemps du cinéma pour rattraper votre retard. Victor, comme tout le monde, rue Malaga, la maison des femmes, ce qu'il reste de nous, film magnifique de Cherienne Dabis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci messieurs.
Merci à vous.
Merci, à mercredi.
Et non, mercredi nous ne serons pas là, l'actualité, il y a la messe inaugurative du renouveau de l'église de la rue du Thor. Nathalie Cardon vous rejoint à 20h, restez fidèles à la présence, salut.
Vous souhaitez joindre Radio Présence, c'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com. Par courrier, 4 rue des Feuillants, 31 300.